que ce soit pour valider un achat ou sur un document administratif, il vous est peut-être déjà arrivé de faire une signature électronique. Et je ne vous parle pas d'insérer votre signature sur un PDF, je vous parle de la vraie signature électronique. Pour ma part, j'ai signé mes deux derniers contrats de travail avec une vraie signature électronique et perso, j'adore l'expérience. Sauf que derrière ce geste tout simple qui est de signer un document via un outil qui est fait pour, se cache derrière une vraie complexité métier. Que ce soit pour simplifier les procédures RH, accélérer les ventes des commerciaux, faciliter les achats ou simplement protéger les accords avec des documents juridiques, YouSign permet aux entreprises d'implémenter des solutions de signature électronique afin d'accélérer leurs activités. Avec moi aujourd'hui se trouve Kevin Dubourg, Head of Engineering de chez YouSign, qui va nous dévoiler tout ce qui se cache techniquement derrière une simple signature. Hello Kevin. À première vue, quand on regarde YouSign, ça semble être un SaaS qui permet aux entreprises de prendre des signatures électroniques, sauf que j'imagine que derrière ça, il y a bien plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le produit et sur sa genèse ?
Ça marche. Bonjour, bonjour Rayette. Déjà, merci de ton invitation sur ton podcast. Effectivement, YouSign, c'est une solution européenne de signature électronique. L'objectif de notre solution, effectivement, c'est de faciliter la vie des entreprises et donc du coup indirectement des signataires en dématérialisant au plus les processus de contractualisation. En fournissant de la signature, qui est un processus dématérialisé et généralement en ligne, pour éviter effectivement la signature papier avec toute la gestion qui est induite par la signature papier. Donc le fait de se voir, le fait de partager ce stylo, de signer, et puis de devoir rescanner, restocker, etc. ces fichiers-là. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'apporter ce confort et aussi de s'intégrer dans des processus qui sont aujourd'hui, je dirais, signer n'est pas forcément toujours une finalité, hein, ça fait partie d'un processus typiquement, si je prends l'exemple d'un bail hein, pour une agence immobilière, la finalité c'est de signer le bail, mais c'est surtout de louer potentiellement un bien, donc le processus de signature est fait sur notre plateforme et la société immobilière vient inviter le locataire et potentiellement le bailleur, le propriétaire à signer sur notre plateforme. Et ça s'inscrit dans un processus global qui permet typiquement à l'agence de location de récupérer le document signé, d'automatiser son stockage, etc. etc. Voilà. Et d'apporter aussi une signature avec une bonne valeur probante et faciliter son processus et aller plus vite d'une certaine façon sur son processus de mise en location.
Les signatures en ligne, on en a, pour moi, j'ai l'impression qu'on en a tous déjà au moins fait. On adore le principe. Tu viens de citer l'exemple de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous ne pouvez pas opérer parce que légalement, il y a des limites ou d'autres contraintes?
Ah, effectivement, tu as raison, Rayed. Il y a aujourd'hui, donc quand on parle de signature électronique, hein, alors je ne vais pas rentrer parce que sinon dans toute la complexité de la réglementation eIDAS hein, qui encadre aujourd'hui la signature électronique, mais on a plusieurs niveaux effectivement de signature. Donc on a de la signature simple, de la signature avancée, de la signature qualifiée. Chaque niveau a ses propres exigences et forcément plus on va monter dans les niveaux de signature, plus les contraintes sur cette signature vont être importantes. Quand je parle de contraintes, c'est généralement de contraintes d'identification. Plus on va aller par exemple sur une signature qualifiée, plus on va avoir besoin de s'assurer avec quasi certitude, voire certitude, on peut le dire, que le signataire est bien celui que l'on attend derrière son écran. Voilà. Donc par rapport à ça, on arrive à signer globalement la majorité des documents aujourd'hui avec de la signature électronique, en fonction encore une fois du bon niveau de signature hein, par rapport au type d'acte à signer. Donc il va falloir adapter ce niveau de signature. Et on a encore Alors, j'ai pas la liste exhaustive, mais on a encore certains documents. Alors, on a un article de notre blog YouSign qui le relate assez bien. On a certains actes qui ne sont pas encore disponibles à la signature électronique, même si c'est des choses à la marge. Mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les assurances vie, par exemple, sont des assurances qui ne peuvent pas être signées aujourd'hui en signature électronique. Donc voilà, ça sera à vérifier, comme je disais, sur l'article du blog, parce que j'ai plus en tête. Mais effectivement, ça reste des contrats. Ça reste peu de contrats. Voilà, aujourd'hui, la majorité des contrats et des actes peuvent être signés de façon électronique. Hein. On parlait de l'immobilier. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Les contrats de travail, on a un très gros marché, nous, derrière, sur les entreprises qui font de l'intérim, sur lequel il y a évidemment aussi beaucoup de volume, notamment sur les périodes qu'on vient de passer. Il y a beaucoup de contrats qui ont été signés. Donc du coup, voilà, c'est le genre de secteur aujourd'hui qui utilise notre plateforme. On a aussi une offre One là, pour les individuels, notamment les freelances, hein, qui ont besoin de faire signer leur contrat de prestation. Voilà, si je suis développeur freelance, j'ai besoin de faire signer mon contrat de prestation, eh ben, je peux passer par YouSign sur notre première offre pour faire signer à l'entreprise en face et de façon dématérialisée mon contrat. Voilà.
D'accord, donc votre clientèle, on est principalement sur du B2B qui, elle, derrière, va soit faire signer des particuliers, soit faire signer des entreprises, quoi.
Exactement, on est dans du B2B2C globalement, et aujourd'hui, YouSign s'intéresse particulièrement plutôt au marché SMB. C'est notre cible aujourd'hui.
Okay. Juste, je précise pour l'audience, SMB, c'est Small and Medium Businesses.
Business,
donc, ouais. C'est les PME qu'on a chez nous, quoi. Toi, tu as rejoint YouSign en 2017, si je ne me trompe pas, en tant que SRE. Aujourd'hui, tu es Director of Engineering. Comment se sont structurées les équipes tech aujourd'hui chez YouSign?
Alors, ta question, c'est à partir de 2017 ou c'est à partir de...
Comment est-ce qu'elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui? Comment elles sont pour quelqu'un qui arrivait aujourd'hui?
Alors, je refais un tout petit peu d'histoire. Moi, quand je suis arrivé en 2017, on était moins de 20 personnes. Hein. Donc moi, j'ai rejoint effectivement à l'époque en tant que Ops. Le terme SRO n'était pas encore tout à fait d'actualité. En tout cas, pas autant en France. Donc du coup, moi, j'ai fait un an et demi en tant que Ops. Après, j'ai été plutôt dans un rôle de head of Ops ou head of SRE sur la nouvelle terminologie. Et je dirais que les choses ont vraiment pris un tournant. Moi, le tournant et le début du scale, je le vois plutôt côté été 2020. Donc moi, j'ai pris le poste en septembre 2020, et je pense que ça a été aussi un message fort passé dans la boîte, c'est-à-dire de dire que en termes de structuration et d'organisation, pour répondre à ta question, c'est qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, ok, la partie produit doit être accompagnée par de l'ingénierie. Et c'est à cette étape qu'on a créé, avec Romain Pichard, qui est directeur produit chez YouSign, qu'on a créé l'INP chez nous. Donc l'INP, on l'a un peu dans toutes nos offres et on l'a dans pas mal de nos communications. C'est Engineering and Product. Le but de cette organisation, ça a été de rapprocher le produit et l'ingénierie. Au sein d'une organisation, je dirais, sur laquelle on essaie de créer un maximum de consistance. Et chez YouSign, aujourd'hui, on fait pas de la tech pour faire de la tech, hein, on fait de la tech pour servir un produit. Et à ce titre, l'idée de créer cette consistance, déjà au niveau organisationnel, c'était pour réaligner les forces. Déjà, on travaille sur une base d'OKR chez YouSign, donc Objective Key Result. Et l'idée, c'était de réaligner les objectifs sur l'ensemble de l'INP. Parce qu'on peut voir dans nos précédentes expériences et dans certaines organisations, l'ingénierie qui met beaucoup d'énergie sur un sujet, le produit sur un autre, tout le monde met beaucoup d'énergie, mais pas dans le même sens. Le but, déjà, d'un point de vue organisationnel, c'était de recréer des objectifs communs. Et donc des key results les plus communs entre le product et l'engine pour recréer cette synergie pour que les besoins produits soient supportés par l'ingénierie dans le même sens avec ces mêmes objectifs. Donc voilà pourquoi depuis 2020 on s'attache à déployer une organisation qui respecte en fait cette grande ambition de rapprocher product and tech. Et donc c'est un peu c'est aussi je dirais concomitant avec le scale de YouSign. À partir de cette période-là, on a commencé à quasiment doubler les équipes YouSign presque à chaque fois, puisqu'on est passé de je te dis 20 personnes en 2017 à aujourd'hui on arrive presque à 100, 140 personnes Là, en septembre 2021, on fait des onboardings entre 10 et 15 personnes par mois. Donc voilà, la courbe de croissance et la taille organique de Usain évolue très vite. Et à la tech, c'est pareil, on a beaucoup, enfin que ce soit à l'INP, on va dire, on a beaucoup grossi depuis septembre 2020. Hein, on a fait quasiment plus, je ne voudrais pas me tromper, mais on est entre 25 et 30 personnes de plus sur un an. Donc ça, c'est pas forcément, enfin, c'est un challenge à tout niveau, c'est un challenge en termes de recrutement, mais c'est aussi un challenge organisationnel parce que il faut être prêt à faire bouger l'organisation très vite et à l'adapter très vite pour bien gérer ce scale. Donc voilà, voilà comment c'est structuré un peu l'INP et la genèse en fait de cette organisation qui prend source en septembre 2020 et qui n'a pas fini hein, d'évoluer. Je te laisse reprendre la main, Rayed. Je ne sais pas si tu as une question intermédiaire, mais on pourra reparler de cette organisation plus en détail aujourd'hui.
C'est ça. Tu me disais qu'aujourd'hui, vous étiez une bonne quarantaine juste sur la partie INP.
INP, quarantaine, ouais, freelance compris. Ouais.
Avec des recrutements qui vont arriver. Comment est-ce qu'ils sont divisés? J'imagine que votre produit, est-ce que vous l'avez divisé en squad, en feature team?
Exactement. Comment est-ce que... Alors, ce départ organisationnel qu'on a pris en septembre 2020 avec Romain Pichard, hein, encore une fois, c'est ce qu'on avait dit aux équipes à l'époque, on l'a pris de façon assez humble. L'idée, c'était pas de créer une organisation pour créer une orga, et d'avoir une organisation de posture, c'est-à-dire de se dire on va faire un copycat d'une organisation à la Netflix ou je ne sais quoi, ou à la Spotify, enfin un truc un peu à la mode qui ne répondait pas à notre contexte. Voilà. À cette époque-là, on avait la réalité, c'est qu'en 2020, j'avais peu de middle management, j'avais un EM. On n'avait pas beaucoup de dev back, pas beaucoup de dev front, enfin voilà, on n'avait pas de quoi créer 10 squads du jour au lendemain, clairement. Donc l'idée, ça a été de faire un premier découpage, un découpage en squad, hein, j'ai déjà donné le terme. Et notre vision à ce moment-là, c'était d'aller plutôt sur des squads pluridisciplinaires, d'arriver déjà à essayer, dans la mesure du possible, encore une fois, hein, de créer des squads avec le plus autoportant possible, donc avec le moins d'interdépendance, hein, sinon la squad a finalement peu d'intérêt. Alors il y a un petit brin de contexte chez Usain, c'est qu'aujourd'hui on a deux produits, on avait trois produits chez Usain. On avait une V1 qui était historique à la création d'Usain, donc qui date de 2010-2011, et on a une V2 et une V3. Ça, c'est sur les évolutions successives de Usain. Et quand moi j'ai pris le poste, une des premières initiatives qu'on a lancées, c'était d'être dans une démarche qu'on appelait une track one product. L'idée, c'était de revenir à un seul produit. Voilà, parce que c'est pas gérable de gérer plusieurs produits dans une organisation comme ça, c'est extrêmement complexe. Donc l'idée, c'était de lancer cette grande vision one product pour revenir sur une chaîne, moi ce que j'appelle souvent une chaîne de production, une seule chaîne de production, un seul produit. Ça se fait pas en un jour. Donc la V1, on l'a fermée en fin d'année dernière, donc 2020. Ça a été un bel exercice et ça s'est très bien passé. Et donc ça a été déjà une première itération. Et cette année, le challenge, c'était d'ouvrir la V3 et progressivement de basculer en inbound l'entrée qu'on avait sur la V2, le basculer sur la V3, donc ouvrir la V3 à la vente, hein, ce qu'on a fait cet été, la V3 app est à la vente depuis juillet, donc on ne vend plus l'application V2 aujourd'hui, mais l'application V3. On a le même travail à faire sur notre API. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des squads, au départ, en 2020, on avait des squads encore sur la V2, et on a ouvert des squads aussi sur la V3 pour structurer finalement. Donc on avait une jambe de chaque côté. C'est aussi une étape qui est un peu difficile, hein, d'avoir des squads sur deux produits et des squads de chaque côté, parce qu'on disperse un peu nos ressources. Donc la grande tâche de l'année 2021 a été de lancer pas mal d'initiatives pour réduire le scope de la V2 et reprendre le maximum de dev, enfin l'objectif c'est de ramener le maximum de dev de cette V2 sur cette V3 à terme. Voilà. L'histoire c'est qu'aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer. La V2 est une solution qui tourne bien, sur laquelle on a fait les derniers ajustements et on a arrêté le développement des features en début d'année. On s'était donné un end of development et on a réglé les dernières petites centries qu'on avait sur cet environnement, ce qui fait qu'aujourd'hui on assure encore un petit peu de run sur cette application. Pour autant, la majorité des devs aujourd'hui ont rejoint les squads V3 ou la task force de migration, parce qu'on a une task force de migration interne qui est en train de déployer toute une organisation, process et technique pour emmener nos clients de la V2 à la V3 de la façon la plus idéale possible et de façon la plus mouse possible. Pour que les clients soient basculés d'une application à l'autre, finalement, sans qu'il y ait de frustration, et qu'au contraire, la richesse fonctionnelle de la V3, il faisait un vrai effet waouh, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un processus qu'on a déjà commencé, on a déjà migré nos premiers clients. Et donc, du coup, pour revenir à l'organisation, on a adressé l'organisation sur cette track One Product et sur cet objectif de One Product. Donc, sortir la V3, la commercialiser, donc finir l'enrichissement en termes de features de cette V3 pour la commercialiser, tant au niveau app que API. Donc on a une squad app, une squad API, voilà. Maintenir la V2, donc on a toujours une squad V2. On a une squad qui s'appelle la squad Engine chez YouSign, qui est la squad qui est en charge du moteur de signature. Donc ça, c'est une squad très tech. J'appelle ça le back du back. C'est une squad aujourd'hui qui est pas du tout en frontal, qui est pas du tout exposée, mais qui est consommée par nos produits pour réaliser toutes les opérations de signature, la génération des dossiers de preuve, le stockage, etc. Une squad très technique, passionnant. Voilà, je t'ai donné à peu près toutes les squads. On avait initié une squad qui s'appelle la squad Seed aussi, qui est une squad qui était là pour faire émerger un certain nombre de side projects, voilà, qui n'étaient pas forcément liés aux produits. C'est une squad qui va muter aussi dans les semaines qui viennent. C'est là où je disais que d'un point de vue organisation, le scale challenge cet orga, et du coup il faut être prêt à remodeler régulièrement, et il nous faut beaucoup d'agilité et être aussi très humble sur le fait de se dire que l'organisation qu'on a posée, peut-être que dans 3 semaines il va falloir la faire évoluer, jamais la casser fondamentalement, parce que je suis jamais pour faire des big bang dans les organisations, ça marche pas, il faut y aller par étapes, faire du try and learn. Et à cette époque on savait qu'on devrait faire des découpages de squad, non pas par je dirais endpoint tel qu'on l'a fait, app, API. On savait qu'il y aurait une fin à tout ça, mais à cette époque-là, on ne savait pas encore exactement où mettre les pointillés entre les squads d'un point de vue fonctionnel. On est aujourd'hui à cette étape. Aujourd'hui, on a des squads qui deviennent, notamment la fameuse squad app, qui devient assez consistante. On a quand même pas mal de defront et dev back, et on sent que c'est le moment de faire ce qu'on appelle chez nous la mitose, c'est-à-dire de se dire, ok, fort de cette squad app maintenant, demain, comment on subdivise et comment on fait la mitose de ces squads vers potentiellement 2 nouvelles squads, pour adresser plutôt, par contre, là, des domaines fonctionnels. Donc, se dire, plus un découpage technique, parce qu'on est aujourd'hui, de toute façon, sur une codebase commune chez YouSign, on a sur un repo et une codebase commune, hein, c'est un monolithe, donc sur une architecture hexagonale, bon, je pense que tu y reviendras tout à l'heure, voilà, comment on assure un meilleur découpage pour avoir des squads qui respectent notre playbook, c'est-à-dire des plus petites squads, plus agiles, et comme je disais tout à l'heure, avec le moins d'adhérence possible.
Aujourd'hui, la squad qui est au point d'être divisée, combien de développeurs vont...
Alors aujourd'hui, on est entre 8 et 10 devs au total sur cette squad, ce qui est important. Ouais. On a laissé passer l'été parce que l'idée, c'était pas de non plus casser ce qui marche. La réalité, c'est ça aussi. Et on est encore en train de réfléchir finalement au découpage de cette squad. Et c'est aussi les OKR de Q4 là sur lesquels on est en train de travailler, qui vont nous aider à ça. Mais on sait qu'il y a un besoin aujourd'hui effectivement de resubdiviser, pour recréer l'ownership, pour aussi. Il y a une époque. Je dirais que c'était encore possible chez YouSign qu'un développeur connaisse toute la stack, connaisse tout le fonctionnel, soit en maîtrise de tout. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'application grandit, tant d'un point de vue produit que d'un point de vue technique, la codebase s'enrichit, et ça va devenir impossible à terme qu'un développeur puisse avoir une connaissance globalisée. Et ça peut générer une certaine frustration, d'une certaine façon, de plus être en maîtrise sur l'ensemble des sujets et la globalité. Donc il faut aussi qu'on puisse honoriser les gens, resegmenter pour que les gens soient vraiment, je dirais, une certaine expertise de leur domaine fonctionnel. Et c'est pareil, on gagne aussi en vélocité, parce que ça évite d'avoir des devs qui sont obligés de se reformer sans arrêt sur le fonctionnel et la codebase, sur des sujets en plus nous qui touchent la signature électronique et qui sont des sujets qui sont aussi très métiers, hein. Faut se le dire aujourd'hui.
C'est très juridique, dev, ça doit être très...
Il y a une complexité métier à adresser, parce que faire de la signature électronique et des flots de signature électronique, ça impose aussi de connaître, de savoir ce qu'on fait. Voilà.
Tu parlais de la V3, tu parlais des nouvelles features. De quoi est consistée cette roadmap et comment est-ce qu'on peut continuer à innover sur la signature électronique alors que dans l'esprit de tout un chacun, on se dit, bon, bah, ça y est, j'ai signé, vous savez le faire depuis entre V1 et V2.
Oui.
Sur quoi est-ce qu'on continue à innover en fait?
Alors, c'est une très bonne question. Sur plein de choses. C'est ça qui fait qu'on ne va pas prendre notre retraite demain. Il reste plein de choses à faire et c'est très très cool. Effectivement, aujourd'hui, globalement, je vais découper ça en deux axes. Il y a les niveaux de signature. Donc, c'est effectivement proposer de plus en plus de niveaux de signature et de flots de signature au marché. Donc, évidemment, quand on propose l'entièreté des niveaux de signature, bon, bah, comme ça, on sait que le catalogue est bien rempli et on adresse les besoins du marché sur les niveaux de signature. Après, c'est d'un point de vue flow, c'est sur chacun de ces flows de signature, il y a plein de combinaisons possibles. Bah, c'est pareil, c'est d'adresser le marché avec un maximum de combinaisons, en tout cas les combinaisons qui correspondent aux attentes de nos clients. Et puis, au-delà de la signature électronique, parce que comme je te disais, effectivement, ce n'est pas forcément qu'une finalité de signer, c'est un des éléments d'un parcours, en fait, hein. Un gros challenge pour nous, c'est de venir demain interfacer YouSign dans ces flows, dans ces fameux parcours clients, qui sont voilà, qui sont différents chez chacun de ces clients-là. Et en fait, le gros challenge dans notre roadmap aussi, c'est venir créer de l'interconnexion avec notre produit, avec tout un tas de solutions. Ça, c'est pour citer du Zapier, voilà, pour la partie connecteur, qui permet elle-même de s'interfacer avec tout un tas de choses. Mais c'est aussi pouvoir s'intégrer avec les connecteurs du marché, des Salesforce, des HubSpot, qui sont des gros CRM utilisés par nos clients. Et qui leur permettent, bah, dans un parcours par exemple de vente, bah, pouvoir faire signer des propositions commerciales, etc., et venir s'interfacer. Voilà, donc on a un vrai, vrai sujet d'interfaçage. Et on a aussi une dynamique qui a été lancée sur le deuxième semestre. C'était une dynamique PLG. Alors, je ne sais pas si tu es habitué de ce concept, mais c'est le product-led growth. L'idée, c'est que demain, ça soit notre produit qui lead, finalement, qui lead notre croissance. Et qui d'ailleurs soit le vrai effet levier de notre croissance. Donc, cette méthodologie PLG nous pousse à fournir un produit avec beaucoup de, enfin, avec, très qualitatif au sens de son usage, mais aussi en termes d'attrait sur la feature donc ça agit à pas mal de sujets, notamment la viralité et notamment au fait qu'il y ait une réelle adoption de nos clients, de notre produit au quotidien. Voilà, qui se disent tous les matins, je vais aller sur la plateforme YouSign parce qu'aujourd'hui c'est clairement une habitude, parce que c'est devenu un usage par rapport à mon quotidien, par rapport à mes process, etc. Donc voilà, on était déjà dans une approche PLJ sur certains points, hein, malgré nous, mais ça rechallenge énormément la roadmap parce que ça veut dire qu'il faut qu'on sorte des features qui soient extrêmement percutantes. Qui adresse bien le secteur SMB. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit améliorer toute notre phase de discovery et dans le fait aussi de mieux dérisquer nos features. Parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, on était dans une track one product. Donc, on s'attardait surtout à recréer la richesse fonctionnelle de la V2 dans la V3. Ça, c'était un minimum, je dirais, à faire. Là, on arrive un petit peu, pas à la fin de la track one product, mais on commence à sortir un petit peu, à lever la tête sur ce sujet et se dire, tiens, ok, maintenant la V2, c'est un peu derrière nous. Sur la V3, qu'est-ce qu'on doit recréer comme nouvelles features? Et ces nouvelles features dans la roadmap demain, bah, quelles sont-elles? Voilà. Comment on va questionner nos users, nos prospects pour savoir quelles features on doit prioriser? Quelle est l'attendue du marché, voilà, pour résoudre des problématiques avant tout. Et donc, il y a un vrai sujet côté product marketing aussi, sur le fait de renforcer cette discovery, comme je disais tout à l'heure, de dérisquer des features, hein, éviter de partir dans des features qui durent 3 mois et puis se dire à la fin, il n'y a pas de marché. Donc là, on travaille sur des frameworks RISE, par exemple, hein, que tu connais peut-être, Rich, Impact, Confidence et Effort, pour bien mesurer les features que l'on va sortir. Donc ça demande beaucoup d'interactions entre le design, le product marketing et aussi l'engineering. Donc pour sortir des features qui ont de l'impact. Voilà. Donc on a un vrai travail sur nos OKR à ce sujet. Je te parlais des OKR Q4, ça en fait partie, et notamment aussi favoriser le self-service sur notre application pour que un maximum d'actions puissent se faire de façon autonome par nos users.
C'est intéressant parce que ce que je retiens de ton explication, c'est que autant il y a un cœur de métier que vous avez déjà maîtrisé, qui est vraiment la partie signature, et maintenant les évolutions vont arriver quasiment sur des sortes de POC ou des sortes de MVP, de features complémentaires, et il faut chercher la valeur métier, chercher la valeur que vous apportez à votre client. Donc j'imagine un développeur qui arrive et qui va travailler sur ce type de sujet, il va quasiment se retrouver comme s'il était dans une startup early stage qui recherche son product market fit.
Alors, tout à fait.
Sans être dans une société qui est littéralement dans cette structure-là, c'est vraiment juste un complément de produit. En fait.
Bah, c'est exactement la façon dont on a nommé ces deux tracks. On a une track qui s'appelle One Product et on a une track qui s'appelle Next Gen. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Ayat. C'est qu'on a cette réenrichissement fonctionnel qu'on continue à faire parce qu'on a encore des petits écarts avec cette V2. Et à chaque fois qu'on ne refait pas du copycat, c'est-à-dire qu'on à chaque fois qu'on reprend une feature et qu'on la remet côté V3, on la repense aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on, parce que sinon, il n'y avait pas d'intérêt à faire une V3. Donc, elle est repensée, redesignée, etc. Donc, elle est fondamentalement... des fois, ce n'est plus la même feature. Elle porte le même nom, mais ce n'est plus forcément la même feature. Et donc, du coup, on a encore un peu de feature machine à faire sur ça. C'est-à-dire qu'on connaît un peu le backlog qu'on a à reproduire sur cette V3. Donc, on est encore en mode feature machine sur cette partie-là, sur cette track. Pour autant, et c'est là où je te disais, on commence à lever la tête sur 2022. Sur 2022, on est vraiment sur une track next-gen. Et là, on a des nouveaux marchés à l'adresser, des nouveaux besoins, donc des nouvelles features. Et là, beaucoup de discovery. Et là, on a besoin effectivement d'avoir des développeurs qui ont de l'impact et qui ne font pas juste développer hein, d'une certaine façon. Il y a une vraie participation à faire avec les PM pour aller chercher ces nouvelles features et puis les emmener. Et nous, on est aussi dans un axe d'itération, on essaie d'itérer un maximum, on évite de rentrer dans des effets tunnels avec des features à 3 mois, 4 mois, on essaie de livrer forcément avec de l'agilité très vite, obtenir du feedback très vite pour regarder, bah, ok, est-ce que cette feature-là fait mouche ou pas, ou est-ce que finalement on s'est perdu dans un truc qui ne marche pas. Voilà. Donc on a bien ces deux tracks chez YouSign, track One Product et track Next Gen, tu l'as très bien résumé.
Et au final, qu'est-ce qui a poussé ce passage de V2 à V3 ? C'est des contraintes métiers, des contraintes techniques, les deux ?
Alors, il y a un petit peu des deux. Alors, je pense que la V3 offre une expérience qui est différente, clairement, en termes de UX déjà, et en termes de voilà, en termes de produits, on est vraiment sur deux produits qui sont vraiment différents. On est très très fiers de notre V3, c'est un produit sur lequel on a vraiment des très bons retours. C'était une application qui nous permettait demain d'aller vraiment étendre nos solutions à l'Europe aussi. Ce que la V2, là où la V2 pouvait être limitante aujourd'hui, forcément sur l'expansion et sur l'internationalisation finalement de notre solution, là la V3 aujourd'hui est internationale. On a ouvert l'Allemagne, on a l'Italie qui a été ouverte, on projette d'ouvrir la Pologne. C'est une application qui se vend très bien à l'international et qui s'intègre très bien dans une gestion multilangue, etc. Il y a eu cette décision d'aller sur une nouvelle expérience sans forcément être trop rattaché au passé. Le risque d'avoir amélioré cette V2, ça aurait été d'être très limité et d'être très ralenti dans le fait de « Ok, on crée une nouvelle expérience, mais en fait, on est hyper cloisonné et emprisonné par notre existant. » Donc, ça a été un choix qui a été quand même dur, mais aujourd'hui, qui amène à une application V3 sur laquelle on a pu reconcevoir beaucoup de choses et globalement tout. Ce qui change totalement l'expérience de la V2 à la V3. Et d'un point de vue technique, eh ben, effectivement, aujourd'hui, la V3, on a capitalisé sur plusieurs années avec la maturité qu'on a aujourd'hui chez YouSign. Donc avec on a essuyé pas mal de plâtre dans la croissance qu'on a eue sur la V2. On a vécu des choses qu'on ne souhaite pas revivre. Donc maintenant, on sait plus pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne fait pas certaines choses. Il y a plein de sujets hype, hein, les microservices, microservices distribués.
Microservices, vous vous en partez ou vous y arrivez ?
On n'était pas vraiment en microservice sur cette V2, on était sur une sorte de monolithe distribué là, et en fait on était dans le, on avait les inconvénients des deux modèles en fait, donc c'est typiquement ce qu'on voulait pas retrouver. Sur l'aspect tout bête, hein, sur l'aspect API, aujourd'hui sur la V2 on a une API qui sert à la fois le front et à la fois les intégrations clients. Bon bah ça clairement on a vu les inconvénients de ce fonctionnement, hein, c'est qu'on a quelque chose qui est extrêmement lié. Voilà, les intégrations clients, on est obligé d'avoir énormément de rétrocompatibilité et de la pérennité dans le temps sur les contrats API, ce qui empêche le front de pouvoir évoluer. Donc c'est, voilà, ça nous tirait clairement vers le bas. Aujourd'hui, demain, on a une API V3 qui sort avec une vraie, déjà une expérience développeur qui est beaucoup plus aboutie. Et qui est un produit, d'une certaine façon, à part. C'est un endpoint à part, donc avec ses propres contrats, ses propres règles. Ça n'empêche pas que, aussi, la dimension de la V3, c'est une, par rapport à la V2, c'est que ça va être un usage beaucoup plus hybride entre l'application et la connexion qu'on va pouvoir faire de YouSign demain. L'idée de notre produit V3 aussi, ça a été de repenser la façon dont on consomme YouSign, dont on consomme cette application, c'est-à-dire de, et dans son hybridation. Je te donne un exemple, ça pourrait être de, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te fournir comme exemple, mais ça peut être de démarrer la création d'une signature request dans l'application, et que le stockage in fine du document qui a été signé puisse se faire à travers Zapier et notre API connecteur, tu vois, qu'on puisse avoir une part de manuel, une part d'automatisation dans ce flow, et donc du coup avoir une hybridation dans un usage app mais aussi API. On pourrait imaginer des actions qui se font dans l'app et des actions qui se font dans l'API. L'idée, c'est de mixer ces usages-là pour demain s'intégrer un peu dans toutes les possibilités dont le marché pourrait avoir besoin.
J'imagine que du coup, il va y avoir beaucoup de nouveaux challenges techniques, que ce soit par les nouvelles fonctionnalités ou le fait de servir une API as a product. On va rentrer dans les détails techniques juste après. Mais moi, il y a une question en termes de méthodologie. Tu parlais de chaîne de production. On parle souvent des méthodes agiles, etc. Comment est-ce que vous appliquez votre méthode de production sur votre cycle de production?
Alors, on a un cycle de développement qui est, qu'on a évidemment retravaillé pas mal cette année. C'est quelque chose qu'on a considérablement structuré, parce qu'on partait forcément, on partait à chaque fois de pas grand-chose, hein, donc on avait des bases, mais le scale et le fait de faire grandir les équipes rechallenge forcément ce cycle de développement. On a des PM qui sont arrivés, enfin voilà, on a des équipes, encore une fois, des squads qui sont pluridisciplinaires, donc on n'a pas le temps d'en parler, mais on a, dans une squad, on a globalement un PM, un EM, dev front, dev back. Généralement, c'est notre playbook, c'est 3 dev back, 2 dev front, sur une squad vraiment classique, hein. Bien sûr, on adapte après en fonction de ce que la squad doit adresser. Et rattaché derrière, après, on a des compétences pluridisciplinaires, SRE, QA, design, etc. etc. Donc, si je reviens sur ta question sur le cycle de développement, nous, aujourd'hui, on l'a divisé en deux grandes parties. On est beaucoup plus aujourd'hui dans l'anticipation, c'est-à-dire que, et dans le by design. On passe côté produit, en fait, si je remonte un tout petit peu plus haut, alors tu veux qu'on remonte assez haut dans le cycle de développement ou je reste sur la partie technique sur ta question?
Tu peux rester sur la partie développement, donc un cycle, on va dire à l'échelle d'un sprint ou alors de l'échelle un poil au-dessus, quoi.
Donc, je vais faire très court du coup sur la phase amont qui concerne plutôt la partie product management, design, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on a donc nos product managers et nos designers qui font normalement ce discovery, design la feature, la scope, la prépare. Donc là, j'avance rapidement sur cette partie-là. Ce qu'on a dans notre cycle de développement, et je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on a beaucoup de travail en amont, parce qu'en fait, on croit beaucoup au fait que quand on prépare bien un sujet, derrière l'exécution, elle se retrouve facilitée. Voilà. Donc, on a beaucoup accentué sur cette préparation, et ça passe énormément par l'interaction, et d'où l'intérêt de cette INP qu'on a créé, de l'interaction avec notre product, notre équipe produit et notre QA. Donc, on va faire ce qu'on appelle chez nous un pré-kick-off, généralement sur une feature. Donc, ce pré-kick-off, il est leadé par le PM et il va permettre de présenter la feature, je dirais, aux équipes Eng, mais pas que. On va aussi intégrer notre CISO, on va aussi intégrer potentiellement notre legal, si cette feature, on estime qu'elle touche à un moment donné à des points sensibles, je sais pas, RGPD, conservation de la donnée, etc. Et sur ce pré-kick-off, on va réunir les gens et on va commencer à présenter cette feature. Donc il y a un PRD qui est créé par les équipes product. Et dans ce PRD, on va décrire ce que doit faire la feature, pourquoi on l'a fait, va donner de la data, etc. pour embarquer tout le monde et notamment aussi les Eng. Pas que sur il y a de la feature à délivrer, voilà ce qu'il y a à faire. C'est aussi donner beaucoup de contexte sur cette feature, pourquoi on l'a fait, et dans quelle mesure elle est pertinente pour le produit. Ce pré-kick-off, il est là pour prendre un certain nombre de questions, notamment si on va s'attarder plutôt sur la partie Eng, prendre des questions des développeurs back, des développeurs front sur, ok, cette feature-là, tu nous la présentes, mais moi j'ai une question sur son imbrication par rapport au produit vis-à-vis de cette feature-là ou vis-à-vis de cette implémentation-là. Ça va être un moment d'échange pour poser des questions au product et laisser le temps aussi au product de pouvoir itérer et pouvoir faire évoluer son PRD par rapport au premier retour qu'il a eu. Donc ça, c'est le pré-kick-off. Quand on a Le PM a pris ses itérations et ses remarques et ses différents feedbacks sur la feature. Il fait ce travail de d'itération et il va revoir un petit peu sa copie. Là, il y a un travail aussi qui est fait avec la QA à cette étape, parce que je pense que tu vas me poser la question des tests à un moment. Dans le by design, on essaye aussi d'avoir les tests d'acceptance dans le PRD. Et les tests d'acceptance le plus exhaustif possible. Voilà. Et je m'attarde un tout petit peu sur ça parce que ça risque d'être une de tes questions, Rayette, c'est que dans le by design, on embarque aussi très fortement l'équipe QA, qui est pour moi la rotule entre le product et l'engineering. Et donc, mettre les tests d'acceptance, les partager à tout le monde, dans une forme lisible, hein, donc c'est du jerking, hein, tout le monde est capable de comprendre ces tests d'acceptance. Et ça, ils sont présents dès le kick-off. Voilà, donc on va présenter la feature. Globalement, quand on parle de kick-off, ça veut dire qu'on rentre dans, on rentre dans le développement la semaine d'après. On présente ce kick-off, les tests d'acceptance, la feature, etc. Et ensuite, là, on va arriver sur la partie un peu plus eng. Donc, si je prends d'un point de vue calendaire, la semaine d'après, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un truc qui s'appelle chez nous la design review. Les fronts, les backs vont prendre un petit peu de temps entre eux pour parler de la feature et du découpage. Et donc c'est là qu'on va commencer à la QA depuis peu, on est en train d'intégrer aussi la QA dans cette étape pour discuter un petit peu de la couverture de tests et de la pyramide des tests et recréer du lien à cette partie-là. On pourra en parler tout à l'heure quand tu évoqueras le sujet de la qualité. Donc sur le design review, c'est une étape très importante pour nous, c'est là où on va faire tout le découpage fonctionnel et technique. Donc les devs vont discuter entre eux de OK, c'est quoi, ça va être quoi le contrat API qu'on va mettre à disposition du front. Concrètement, on va découper nos user stories de quelle manière pour que tout ça puisse être testable et qu'à chaque fois qu'on finit une user story, qu'elle soit testable par le product, la QA et tout le monde. Donc voilà, c'est le moment où on fait ce découpage fonctionnel et technique et où on s'entend. Donc c'est un moment de débat, hein, où les techs parlent entre eux et puis font ce découpage. Une fois que ça c'est fait, généralement arrive à une étape aussi importante qui est la création de cet épique, le découpage des stories par rapport à ce découpage qui a été préparé en séance et ajouter les points de complexité sur chacune de ces stories, parce que on a forcément, comme toute bonne roadmap, on a aussi besoin à un moment donné d'avoir une estimation et un macro planning sur la feature. Donc voilà, l'idée c'est de mettre un certain nombre de points sur chacune des stories. On essaye, comme je disais tout à l'heure, d'être dans l'itération maximum, donc de livrer très très vite pour éviter les effets tunnels. Donc on évite d'aller à plus de 2-3 sur les points de complexité qui sont pour nous aujourd'hui, on est encore en train d'itérer là-dessus, mais plutôt des jours hommes. Voilà. C'est plutôt comme ça que c'est calibré.
D'accord, donc un point, c'est un jour homme.
C'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est plutôt. On se cherche encore un petit peu sur notre capacité et notre vélocité, parce qu'en fait, c'est lié à deux facteurs. Au fait qu'on a des équipes qui sont assez jeunes et sur lesquelles on n'a pas forcément encore beaucoup de retours sur la vélocité, parce qu'on a des devs qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont encore en acquisition. Donc, la vélocité, on commence à la toucher du doigt. On commence à, là, ça y est, on a les premières grosses features qui sont sorties quasiment à date. C'est unique. Ça a été unique dans l'histoire cet été pour YouSign. Ça arrivait en juin. Lié à notre amélioration du cycle de développement, tout notre découpage, la forte attention qu'on passe sur le design des features, on a des features qui sont sorties le jour même où la due date avait été positionnée. Donc ça a été assez incroyable. Pour autant, on a eu plusieurs features comme ça. Donc ça montre d'une certaine façon concrètement que notre découpage est bien fait, qu'on est vraiment dans l'anticipation et que tout est bien géré en amont. Voilà. Bon, tout n'est pas parfait, hein. Je veux pas non plus rendre la mariée trop belle, hein. Il y a forcément plein de choses à améliorer. Mais le résultat, c'est ça. Donc une fois que tout ça s'est découpé, on n'est pas en mode, on fait pas de sprint en tant que tel. On n'est pas vraiment sur du scrum. On est dans de l'agilité. Pour autant, aujourd'hui, nous on travaille plutôt dans un mode de binôme. On a sur par feature, on a un front, un back généralement sur les feature types, et on accompagne ça d'un autre binôme avec un autre back et un autre front. Et ce binôme est là aussi pour faire tout. Enfin, il participe à l'ensemble du cycle de développement. Donc, il participe au kick-off. Ils participent au design review et ils servent aussi comme pair programming et aussi comme à la code review. Voilà. L'idée, c'est que la code review soit gérée par ce binôme qui a été embarqué dans l'ensemble du cycle et en fait, quand ils arrivent en code review, ils savent ce qu'ils review en fait d'un point de vue fonctionnel et pas que technique. Donc la review est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pragmatique et aussi ça évite d'avoir ce qu'on a eu par le passé en code review des « Ah ben non, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait découper. Ah non, vous avez pas du tout pris les bonnes patterns. Ah non, voilà. » C'est globalement, si on a à se dire ces choses-là, c'est qu'il a manqué des choses dans la design review avant. C'est qu'on a loupé une étape, en tout cas. Mais donc aujourd'hui, on a des features qui durent à peu près un mois max. Enfin, on est entre un mois généralement pour les features moyennes, on va dire.
D'accord. Le même binôme va faire son pair programming et après va faire sa propre review ?
Alors, le pair programming, il peut se faire avec le binôme. C'est-à-dire que si le devback, à un moment donné, a besoin d'être réassuré sur ce qu'il est en train de faire, je prends l'exemple d'un devback, hein, il a besoin d'être réassuré sur ce qu'il est en train d'implémenter. L'idée, c'est plutôt que d'aller chercher un devback de l'équipe qui n'est pas du tout au courant de la feature, il va aller voir son binôme pour lui dire « Tiens, écoute, je suis sur ça, qu'est-ce que t'en penses ? Je te partage mon écran sur Discord, j'en suis là. » Qu'est-ce que t'en dis ? Et ça, en fait, c'est un binôme qui est officiel, c'est-à-dire que il est identifié comme tel et on l'a mis dans toutes les dans les différents meetings et sessions sur le sujet. Donc c'est un binôme qui sait de quoi on parle au moment où on lui pose la question. Et donc du coup sur la code review, comme je disais, cette personne-là est déjà au fait et il sait concrètement ce qu'il est en train de review. Il fait pas juste une review technique. Ah bah tiens, t'as oublié un E ou t'as mis une virgule ici. Voilà, il y a une vraie review fonctionnelle.
Côté technique, YouSign utilise une stack PHP React. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes des choix techniques ? Quels sont les langages, les librairies, l'architecture que vous avez mis en place ?
Bien sûr. Alors chez YouSign, effectivement, on utilise du PHP depuis pas mal de temps. On avait à la construction de YouSign, c'était plutôt une stack Java et la migration PHP s'est fait à peu près en 2015-2016, quelque chose comme ça. Donc on utilise PHP et le framework Symfony depuis longtemps maintenant. C'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà. Donc on est sur un PHP 7x sur un Symfony. Alors ça dépend un petit peu les repositories qu'on a, mais on est assez frais sur les Symfony. On est soit sur du 5, soit sur du 4, mais globalement à chaque fois sur des versions LTS. Voilà un petit peu pour la partie back. Alors j'ajouterais aussi sur la partie back qu'on a encore un petit peu de Java sur les applications très métiers autour de la signature électronique et ce qui est aujourd'hui géré plutôt par notre squad qu'on appelle Engine. Donc, il gère, comme son nom le donne, le moteur de la signature. On a pas mal d'outils très métiers autour de cette signature et cette manipulation de PDF, qui est notre cœur de métier. Et ça, c'est généralement du Java. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie back. Sur la partie front, on utilise aujourd'hui du React, hein. Sur la version 17. Voilà. En termes d'implémentation, donc tu l'as vu, on est sur des frameworks quand même assez récents, assez actuels. Sur la partie plus code, aujourd'hui on est sur un monolithe nous chez uSign. Toute la partie applicative est sur un monolithe. C'est un choix assez éclairé qu'on a fait. On a été longtemps dans l'histoire de uSign aussi hypé comme tout le monde par les microservices. On y a goûté d'une certaine façon en faisant un petit peu entre les deux, hein, du microservice distribué, donc avec tous les inconvénients et peu d'avantages. Donc là sur notre produit V3, on a fait le choix de ce monolithe par rapport à notre expérience, on va dire, et le fait qu'aujourd'hui on évite d'être trop hypé. On est plutôt dans, si j'avais à choisir le terme, je rejoindrais plutôt la proposition de Doctolib dans de la boring architecture. Alors pas dans le sens péjoratif du terme boring, mais plutôt dans un aspect keep it simple, voilà, et essayer de garder une, que ça soit à tout niveau, hein, l'infrastructure, le code, le repository, etc., beaucoup de simplicité, enfin en tout cas le plus de simplicité possible, pour faciliter notre maintien en condition opérationnelle, les évolutions, etc.
Donc, si je comprends bien, ouais. Vu que vous avez une brique Java qui gère la partie signature, celle-ci est un service à part entière, et après vous avez votre app PHP qui est un monolithe à part entière également, c'est ça?
Exactement. Donc en fait, l'application V3 qui est le produit est effectivement sur un monolithe. On a la partie ce qui est géré par l'engine. Donc là, c'est souvent ce que j'appelle le back du back. Hein. C'est un service tiers qui est développé et maintenu par cette équipe. Là, c'est un autre repository avec un autre monolithe. Donc toujours sur du PHP. Hein. Et autour effectivement de cette brique, on va venir embarquer ou consommer des services un peu métiers, où là on va retrouver effectivement cette composante Java, notamment comme je te disais sur la partie manipulation de PDF. Aujourd'hui la manipulation de PDF ça se fait pas très bien en PHP, pour être très honnête. Il faut aller sur des langages type Java pour là on va retrouver beaucoup plus de librairies métiers, tu vois, comme du high text, pour manipuler correctement un PDF. Donc ça c'est effectivement soit dans des repos séparés, soit inclus dans le repo de la squad engine. Donc c'est pas un monolithe complet chez uSign qui embarque tout, hein. On a quelques services comme ça qui sont détachés, mais on peut pas dire qu'on est aujourd'hui dans une approche microservice, hein. Concrètement, on reste le plus possible sur des monolithes, avec tous les avantages aujourd'hui que nous on y trouve dans notre contexte. Voilà, on a plus d'avantages aujourd'hui d'avoir ce monolithe que d'inconvénients.
Tout à fait. Et du coup, comment se passe la communication entre ces différents services back-end?
Alors, c'est une communication tout d'abord d'équipe, hein, avant tout.
Je voulais dire technique, hein. Est-ce que c'est plus sur de l'HTTP, du système de messagerie?
Ok, on a les deux, effectivement. On a les deux. Aujourd'hui, cette partie engine dont je te parlais est un web service, hein. Donc on a une API qui est exposée, on a un contrat qui est passé entre les équipes produits et cette brique technique interne. Donc la communication se fait principalement en HTTPS, évidemment, sur la base d'un contrat entre ces deux web services.
Ok. Et du coup, tu disais que vous aviez plusieurs repos. J'imagine que le front-end a un repo à part entière.
La réponse aujourd'hui est non. Tout est dans le même repo. On joue aujourd'hui au niveau de la pipeline pour builder et déployer le front avec le back. Il y a des sujets actuellement sur le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un build qui est fait à peu près en même temps, et le deploy se fait de façon encore une fois un peu monolithique, hein, on livre tout en même temps. On se pose aujourd'hui la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de splitter, puisqu'on a un gros sujet de continuous deployment que l'on est en train de tacler déjà depuis plusieurs semaines et sur lequel on est encore en train de travailler, pour donc avec un gros challenge derrière, hein, qui est que comme on scale, les équipes grandissent très vite chez YouSign, eh bien il faut qu'on puisse, ça peut être aussi un peu des fois la faiblesse d'un monolithe, hein, c'est qu'on a des releases qui deviennent de plus en plus grosses, hein, c'est à un moment donné on arrive sur des releases un peu paquebot, l'idée c'est de pouvoir fluidifier ce continuous deployment en se reposant des questions. Est-ce que je livre mon front de façon indépendante de mon back, est-ce que je réduis mes, alors ça c'est pas une question, hein, c'est une affirmation, il faut qu'on réduise la taille de nos releases, et derrière est-ce que je split front et back. Il y a des... La réponse n'est pas si évidente que ça, en termes de oui, c'est mieux, non, c'est moins bien. On est actuellement en train d'y réfléchir, pour être tout à fait honnête, parce que ça porte, comme tout, hein, comme toute solution, c'est jamais parfait, il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, en tout état de cause, aujourd'hui, le déploiement se fait de façon globalisée. Donc quand on déploie le front, on déploie également le back en même temps. Et dans nos releases, après, tout dépend de ce que ça embarque.
Ok, d'accord. Donc, c'est une architecture monorepo. Et aujourd'hui, oui. Vous posez la question parce qu'elle elle rend les releases trop lourdes et trop lentes par rapport à votre CD.
Alors, c'est pas l'aspect monorepo, effectivement, qui génère cette problématique. Je dirais que c'est un peu plus... ça vient toucher, le continuous deployment vient challenger à la fois la tech, donc la pipeline, parce qu'on peut très bien avoir un monorepo et puis après ajuster la pipeline pour que on soit capable de builder, de releaser de façon indépendante, hein. Donc ça c'est pas forcément lié au fait d'avoir un monorepo ou non. Ça vient aussi, ce continuous deployment vient aussi challenger les process, voilà, la responsabilité, l'ownership dans la release. Il y a un aspect, effectivement, il y a un volet technique de sujet de pipeline, hein, comment on automatise et comment on fait que notre pipeline est capable de faire ce qu'on lui demande de faire, hein, donc de réaliser d'un côté et de l'autre. Mais il y a aussi un sujet de process et d'équipe, de savoir, voilà, comment on arrive à créer un maximum d'ownership dans ceux qui font ces merges, hein, sur master, parce qu'aujourd'hui globalement la personne qui fait la release et qui embarque l'ensemble de ses commits n'est pas forcément celle qui a fait le développement. Donc et généralement aujourd'hui c'est sur cette étape là que on a le plus de freins. Puisque il faut que la personne qui appuie sur le bouton play de la release, généralement aujourd'hui envoie quand même en production un certain nombre de changements sur lesquels cette personne n'est pas tout à fait honneur. Donc il y a besoin encore de se synchroniser avec les personnes qui ont été acteurs sur ces commits pour s'assurer que la release peut être envoyée dans de bonnes conditions. C'est sur ce process que l'on est en train de travailler, et je dirais que la finalité c'est le continuous deployment, et derrière la pipeline est un moyen, voilà. Et nous ce qu'on travaille c'est adapter le moyen à cette finalité, et pas faire l'inverse surtout.
Ok, donc du coup tu nous as parlé un peu de ton de continuous deployment, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'infrastructure qui accueille toute votre stack?
Bien sûr. Alors, l'infrastructure, je vais essayer d'aller te faire un peu bottom to top. Hein. Donc aujourd'hui, l'infrastructure, ça commence déjà par un cluster. Aujourd'hui, nous, on utilise un cluster privé chez OVH. Donc on est sur une gamme qui s'appelle aujourd'hui du SDDC. Donc c'est une infrastructure VMware, voilà, donc un cluster VMware, donc avec un certain nombre de virtual machines qui sont à notre main, hein. C'est de l'IAS aujourd'hui qu'on achète chez OVH, c'est des ressources qui nous sont dédiées. Par-dessus cette infrastructure as a service, on a nos VM, et au-dessus de nos VM aujourd'hui, on utilise nous depuis longtemps Docker. Donc Docker, on le retrouve à tout niveau, à toutes les steps, hein, on l'utilise du poste du développeur jusqu'à la production. Et donc pour gérer ces conteneurs Docker, on utilise un orchestrateur qui s'appelle Rancher, qu'on utilise aussi depuis un long moment. On l'a utilisé dans des versions très early chez YouSign. Aujourd'hui, on l'utilise dans une version qui est extrêmement extrêmement stable, que l'on maîtrise bien, mais que l'on souhaite faire évoluer l'année prochaine notamment. C'est un très gros sujet pour nous parce que ça vient rechallenger toute la partie infrastructure, déploiement, etc., etc. Le changement d'orchestrateur enfin, en tout cas, soit changement d'orchestrateur, soit évolution de l'orchestrateur existant est un très gros chantier côté SRE, mais que l'on doit mener et qui va venir un peu chambouler pas mal de points l'année prochaine. Donc voilà, d'un point de vue infrastructure, Docker, Rancher en orchestrateur, plusieurs steps, hein, plusieurs environnements techniques évidemment, dont un environnement technique, ce qu'on appelle nous du multitesting. Donc c'est des environnements éphémères. On est capable de déployer de façon éphémère des sortes de releases, hein, en tout cas pour essayer de tester très vite et de donner accès très vite à une feature dans un environnement de test. Voilà. Après, on retrouve l'environnement de testing, de QA, puis la prod. Quoi de dire d'autre sur la partie infrastructure? On utilise un reverse proxy qui s'appelle Kong, voilà, qui nous sert aujourd'hui à pas mal de points, qui aujourd'hui nous permet de gérer la partie rate limiting, qui nous permet de gérer l'adressage des services et de déclarer un certain nombre de routes, de faire toute la sécurité de ces routes, faire de la journalisation, du contrôle et de la sécurité par tout un tas de types de modules qui permettent de venir faire des checks à la volée. Voilà globalement ce qu'on se sert sur ce reverse proxy Kong. Et qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre en termes de services applicatifs? Voilà, après on va retrouver des grands classiques, hein, au niveau des events de type RabbitMQ, sur tout ce qui est cache, etc. On va utiliser du Redis. Voilà, on utilise aussi sur notre V3 une composante qui est Mercure pour pouvoir envoyer des events à notre front et puis déclencher des refresh. Je t'ai cité à peu près les grandes briques que l'on utilise chez Usain. Encore une fois, on est assez conservateur. On essaye d'être assez vigilant dans les outils qu'on déploie, d'en avoir le moins possible pour permettre d'avoir une bonne expertise sur chacun et éviter d'avoir des outils. On évite aussi on évite d'utiliser des solutions en alpha. Hein. On essaye d'être sur des solutions du marché qu'on a pu tester, benchmarker et puis qui tiennent la prod. Hein. Ça n'empêche pas qu'on puisse tester des choses, hein, mais en tout cas en production, on est vigilant sur les solutions qu'on utilise. Et je n'ai pas parlé d'un point essentiel quand même, c'est la base de données.
C'est ce que j'allais te poser comme question.
tu fais bien, je l'ai oublié. On utilise aujourd'hui du Postgres. Postgres, pardon, je me suis fait reprendre l'autre jour au forum PHP par une experte. C'est Postgres, on utilise du Postgres chez Usain, c'est notre standard, c'est devenu notre standard. On utilisait à un moment donné un petit peu de MySQL et de Postgres. Aujourd'hui, on s'est focus uniquement sur Postgres, qui est une base de données quand même très très robuste.
Et aujourd'hui, c'est vous qui gérez votre déploiement Postgres ou vous avez un service manager?
Non, aujourd'hui pas de service managé effectivement. On déploie notre cluster, qui est un cluster sur base Patroni, qui est à la main de nos SRE et qui est complètement managé par nos soins aujourd'hui et qui fonctionne très très bien. Voilà, avec un système de, on utilise des systèmes de réplica aussi avec des fonctionnalités de streaming pour pouvoir répliquer pour les besoins notamment de la data, hein, qui collecte pas mal de choses et pour ne surtout pas taper dans nos instances de production, mais aussi des réplicas pour assurer le fonctionnement de notre PRA et la disponibilité exactement.
Aujourd'hui, les profils que tu recrutes, j'ai vu que tu avais bien segmenté la partie infra-SRE, mais côté dev, est-ce que tu es sur des profils full stack ou est-ce que tu segmentes également back et front?
Alors aujourd'hui, on a une segmentation qui est effectivement assez forte, hein, c'est-à-dire que on a quand même ce besoin d'expertise sur chacun des domaines. Donc ce qui fait que aujourd'hui, on a bien des personnes front et des compétences back. La composante full stack, elle existe chez Usain et on se ferme pas la porte dans le sens où ce que j'aime bien dans l'esprit full stack, c'est d'avoir des personnes qui ont cette capacité un peu d'être autoportant sur certains sujets. On a des sujets qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une expertise incroyable côté back et front et qui du coup font qu'on se retrouve avec deux personnes pour traiter un sujet qui pourrait être traité globalement par une seule et c'est un peu contre-productif en réalité. On a des gens qui se marchent un petit peu dessus pour traiter ces petits sujets. L'intérêt d'avoir quelques full stack dans notre organisation, c'est déjà d'assurer un pont entre les équipes et aussi d'avoir des personnes qui ont cette habilité à traiter les deux sujets de façon autoportante et seule, voilà, sans forcément de friction, d'être, je prends souvent l'exemple d'un peintre, hein, qui se retrouverait, enfin deux peintres qui se retrouveraient à peindre le même mur, ça amène plus de complexité d'en avoir un seul qui fait le job, voilà. Donc c'est un peu dans cet esprit-là aujourd'hui qu'on a des profils full stack chez Usain. Donc on a les trois avec une plus petite proportion sur la partie full stack.
Et j'aime beaucoup ton explication, parce que le débat du full stack, est-ce que ça existe pas, je l'ai toujours trouvé inadapté. Il suffit juste de regarder les offres d'emploi pour voir qu'en fait il y a des entreprises qui en cherchent. Et l'idée d'avoir un profil qui est capable de prendre ses US plus efficacement en étant full stack qu'en mettant un peu de temps d'un back puis un peu de temps d'un front, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qui fait beaucoup de sens.
Merci. Mais écoute, moi, je suis pas un homme de débat, je suis plutôt un homme de contexte et de réalité. Nous, on a la nôtre. Alors, chaque boîte a la sienne, hein. Moi, je participe. Enfin, voilà, je suis pas forcément à participer à ce type de débat. Sur la partie full stack, nous, on sait pourquoi on en a besoin. On connaît les avantages, mais aussi les limites de ce type de profil, parce qu'évidemment, croire que full stack égale mouton à cinq pattes et avoir une expertise complète sur l'ensemble de la stack et du contexte est pas possible. Donc nous, on est assez pragmatique par rapport à ça. C'est pour ça que je disais qu'on savait pourquoi on les recrutait, comment les utiliser. Après, effectivement, comment ils évoluent dans l'organisation. Bon, bah ça, on va le découvrir aussi avec les personnes qu'on a recrutées. Moi, je dis souvent que la nature n'aime pas le vide. Donc, dans tous les cas, les personnes sont résilientes. Et puis, on verra comment on évolue avec des profils full stack aujourd'hui. Mais je suis souvent ces vastes débats autour des profils full stack. Et je pense qu'il y a autant de personnes que d'avis. Donc sujet très opinionated.
Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet grosso modo de la qualité. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les pratiques que vous avez mis en place pour assurer la bonne qualité de votre produit à travers le temps?
Ouais, alors chez Usain, depuis de façon historique, on a une équipe QA. Alors, je le dis parce que c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui ont fait le choix de ne pas en avoir. La réalité, c'est que nous, aujourd'hui, on a une équipe QA chez Usain. L'équipe QA, aujourd'hui, on a fait le choix avec Romain Pichard, qui est directeur produit. Il y a un an, on a fait le choix de faire porter la qualité chez lui en termes d'organisation et de responsabilité, pour une raison qui est toute simple, hein, c'est que on voulait éviter d'être jugé parti, c'est-à-dire que on voulait que la QA puisse être le garant de la qualité qui est délivrée par l'ingénierie. Et cette qualité est très proche en fait de l'attendu produit. Donc ça nous faisait sens à ce moment-là de rattacher cette équipe qualité au produit et pas à l'ingénierie. Donc c'est pas moi qui les gère directement, pour pouvoir garder cet œil critique et cette, d'une certaine façon, cette indépendance. La qualité est un point très important chez Usain. Au-delà de ces mots et de se dire que, parce que je pense qu'on est pas mal à le dire, mais on est extrêmement vigilant sur la qualité, déjà pour une raison qui est évidente chez nous, c'est qu'on fait de la signature électronique et donc on a un engagement fort sur la confiance de nos clients sur le fait de délivrer des signatures électroniques dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire que ce qu'on emmène en prod, au-delà de l'aspect produit, hein, qui est commun à pas mal de boîtes SaaS, derrière on a quand même ce métier de la signature électronique sur lequel on peut pas se permettre d'avoir beaucoup de bugs, hein, parce que ça impacte directement le business de nos clients et potentiellement des aspects légaux. Voilà, donc on est très vigilant sur la qualité et ce que j'ai dit tout à l'heure sur la stabilité de ce qu'on peut sortir en production, notamment côté de l'engine. Côté product, donc on a cette équipe qualité qui est garante de ce qui est livré côté eng. Pour autant, on a une sensibilité très forte à la qualité sur les devs qui travaillent aujourd'hui chez Usain. Je pense que c'est aussi un esprit, d'équipe qui se dilue en fonction des personnes que l'on recrute. Et on a la chance chez nous d'avoir des personnes très sensibles à cette qualité. Donc la qualité, elle se retrouve à pas mal d'endroits. Déjà, elle se retrouve dans la qualité du code, dans sa hiérarchisation. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, nous, on est sur une architecture plutôt hexagonale. Et les équipes sont assez vigilantes au fait d'organiser, de découper et d'architecturer le code de la meilleure des manières pour que ça puisse être exploitable. Et sur la partie test, hein, parce qu'in fine, quand on parle qualité, on parle aussi test, on est chez YouSign sur une pyramide assez classique des tests, hein, avec test unitaire, test fonctionnel, test alors qui sont des fois assez proches de fonctionnels, test d'intégration. Et pour finir, les tests de œufs. Voilà. Donc cette pyramide est assez bien respectée. Hein. Quand on la représente, on est bien sur la pyramide classique. On a une centaine de tests à peu près E2E qu'on est en train d'ailleurs de retravailler, d'externaliser. On les a sortis. La QA a fait un super job de les sortir de la pipeline actuelle. Et là, les a réintégrés dans une pipeline QA pour, je dirais, d'une certaine façon, réduire le temps sur la pipeline. Donc ces tests fonctionnels viennent faire un cover assez strict de s'assurer que l'application globalement fonctionne telle qu'elle devrait fonctionner dans ses composants critiques. Voilà, l'idée, on le sait tous, c'est de ne pas avoir 4000 tests fonctionnels, parce que on connaît aussi les inconvénients de ces tests fonctionnels, qui sont leur stabilité, leur maintien dans le temps et tous les flaquis. Donc on est assez pragmatique sur ces tests et c'est là où la QA intervient chez nous, c'est dans cette répartition, dans le fait de maintenir la répartition qu'ils attendent, d'avoir les tests au bon niveau. Et d'avoir cet échange constant avec la partie Eng, notamment sur ce qu'on appelle chez nous la design review, que les tests d'acceptance qui sont présents dans le PRD des product managers, puisqu'en fait la QA prépare les tests d'acceptance qui sont des tests d'acceptance en ubiquitous language, qui sont présents dès le PRD du product. Du product manager, qui sont présentés dans les différents kick-offs. Derrière, il y a une design review qui est opérée un peu plus tech entre les devs et la QA pour le coup, fort de ces tests d'acceptance, définir les tests plus techniques, notamment les tests qui vont être opérés côté dev, puisque aujourd'hui l'écriture des tests reste, en tout cas l'écriture des tests unitaires et fonctionnels reste à la main des développeurs. Et à leur discrétion, mais pour autant la QA a un regard sur comment ces tests vont être réalisés, la pertinence de ces tests et leur suivi dans le temps. Voilà. Donc difficile de te faire une réponse très exhaustive, hein, c'est parce que la qualité, on pourra en parler des heures. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Mais
tu as répondu spontanément à plusieurs sous-questions qui auraient pu émerger. J'en ai juste une au niveau, justement, tu parlais de l'interaction entre l'équipe dev et l'équipe QA. Tu as spécifié également qu'il y avait des critères d'acceptance qui étaient définis en amont du début du dev. Ce qui est une bonne pratique, c'est une bonne pratique QA qui est difficile à maintenir avec le temps, du moins si on n'a pas les bonnes équipes. Combien de fois est-ce que sont amenés à se rencontrer dev et QA en amont du dev?
Alors je vais te répondre un tout petit peu plus globalement, c'est qu'on passe pas mal de temps chez YouSign sur l'amont du dev, voilà, de façon générale, c'est-à-dire que on a des garde-fous et on est vigilant à ce que une feature qui devrait prendre 2 jours, on passe pas 3 mois en conception. Pour autant, on insiste fortement sur la préparation de la feature, c'est-à-dire que on a une phase amont quand on rentre dans le delivery, on a déjà normalement passé pas mal de temps avant sur cette étape de conception, de définition, de challenge de la feature avec l'équipe produit et d'échange, comme on disait, avec la partie QA. Donc cette interaction, elle se fait en fonction de la complexité, hein, à plusieurs endroits. Déjà, elle se fait parce que au kick-off, on présente les tests d'acceptance, donc ils peuvent être à ce moment-là challengés par les développeurs qui participent évidemment à ce kick-off. Hein. On fait intervenir lors de ce kick-off toutes les personnes qui ont toutes les parties prenantes, on va dire, sur la feature. Donc ça concerne évidemment les devs, mais on a aussi potentiellement le CISO qui vient si on voit qu'il y a une composante de sécurité. Il peut y avoir la data, etc., etc. Donc c'est la discussion autour de ces tests peut déjà commencer à cet instant. Et derrière, on fera autant de workshops que nécessaire avec la QA pour affiner la pertinence de ces tests d'acceptance, leur bonne compréhension par les devs, parce que mine de rien, il n'y a rien qui est évident à cette étape, et ça nécessite clairement une discussion humaine pour faire matcher ces tests d'acceptance aux tests techniques. Et ça, voilà, j'ai envie de te dire que c'est assez aléatoire en fonction de ce qu'on va... du sujet sur lequel on va travailler, mais en tout cas on va se laisser le temps nécessaire pour que cette partie qualité soit globalement la plus anticipée possible, parce que ce qu'on évite en tout cas, ce qui me frustre des fois, c'est que on s'aperçoive de choses à la fin de la feature et qu'on se dise ah bah mince, c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment bossé les tests d'acceptance. Et qu'on se repose des questions un peu essentielles, soit dans la feature, soit en fin de feature. Voilà. On maintient, enfin la QA maintient quand même de l'exploratoire hein, sur les features qui sont livrées, même si on a effectivement un certain nombre de tests unitaires, de tests automatisés. La partie exploratoire est quand même quelque chose que la QA souhaite maintenir. Alors toujours avec une proportion quand même qui est contrôlée, dans le sens où ces tests exploratoires ne doivent pas non plus ralentir trop le delivery. En tout cas, voilà, l'idée c'est en conception d'avoir balayé le maximum de points pour s'éviter des frustrations, hein, on peut appeler ça comme ça, dans le delivery avec des tests d'acceptance qui n'auraient pas été suffisamment bien challengés. Et je parle bien de challenger parce qu'encore une fois, même si l'ownership des tests d'acceptance est côté QA, ceux qui les mettent en œuvre, ça reste les développeurs. Donc ils n'en sont pas forcément garants, mais en tout cas ils doivent les comprendre, les challenger, et c'est eux in fine qui les mettent en œuvre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Ryan.
Tout à fait. Et du coup, ma question suivante, c'est le revers de la médaille, enfin l'autre côté de la balance, qui est post-déploiement. Comment est-ce que vous avez mis en place votre système de monitoring, alerting, et comment est-ce qu'intervient la QA pour remonter des éventuels comportements bizarres ou bugs aux devs?
Alors, comme je te disais tout à l'heure, la QA a automatisé notamment ces tests de œufs qui sont complètement à leur main. C'est eux aujourd'hui qui les développent. Hein. Derrière, ils s'appuient sur du Cypress. C'est dans leur repo, c'est à leur main. Et eux lancent cette pipeline, elle est lancée de façon régulière sur les tests, sur les environnements de tests. Hein. Donc, de par ces tests fonctionnels qui sont assez qui sont encore une fois pas très nombreux, parce qu'on parle de 100-150 tests, mais qui viennent checker vraiment les composantes critiques de l'application. Donc ça viendra pas détecter potentiellement que le bouton est pas au bon endroit, hein, mais ça viendra détecter que potentiellement la signature request ou l'émission d'un SMS n'est plus possible. Eux, dès l'environnement d'intégration, sont alertés. Et quand je dis eux sont alertés, les équipes de développement le sont aussi. Ça, c'est un travail aussi que l'on a fait sur ce dernier quarter. Chez YouSign, on travaille vraiment dans une approche SRE et dans le fait aussi que nos développeurs, c'est sûrement une question que tu me poseras tout à l'heure, mais ce qu'un développeur peut venir chercher chez YouSign, c'est... J'ai souvent des développeurs en entretien qui me disent « Moi, j'ai pas envie de faire que, pardon pour la vulgarité, mais pisser du code. » Ce qu'on propose aussi chez YouSign, c'est que le développeur soit le plus honneur possible sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il participe dès le kick-off à la conception et au challenge de la feature, à son développement en phase de delivery, mais aussi à l'anticipation de « Je dois emmener ma feature en production de la meilleure des manières. » Et à tout niveau, en termes de qualité, mais aussi en termes de performance et de résilience et de scalabilité. Ce qui fait qu'on a travaillé, notamment sur ce quarter, à ce que nos squads soient honorisés sur leur delivery. C'est-à-dire que l'alerting qui peut tomber à la fois chez la QA, mais à la fois dans les squads, soit automatisé et tombe dans un backlog. Donc nous, on utilise une solution qui s'appelle Obgeny, qui est une sorte de gros bac à alarme qui nous permet de déclencher ensuite derrière certaines actions métiers. Et aujourd'hui, toutes ces alertes arrivent dans ce gros backlog et est traité par les squads et potentiellement la QA. Ce qui fait qu'on, notamment quand les tests de jeu E2E aujourd'hui fail, on a une alarme qui est dupliquée à la QA et également dans la squad concernée pour agir finalement très vite sur sa correction. Donc, et ça va au-delà des tests qui sont aussi exécutés dans la pipeline à chaque build. quand c'est lancé par les devs. Voilà. Donc on a un processus complètement asynchrone qui est à la main de la QA et qui exécute des tests de façon automatisée sur les environnements d'intégration, mais aussi, et ça c'est important, sur la production. On a des tests, on a des tests de the complets qui tournent en production. C'est des tests qui sont assez simples, hein, je me log à l'application, je crée une signature request, j'invite quelqu'un à signer, j'ajoute un document, etc. etc. Et en fait, on valide un flow complet d'utilisation, on va dire, sur le chemin critique de notre application. Ça, c'est la partie test automatisé à la main de la QA, pardon. Et on a également toute la partie observabilité. Aujourd'hui, on utilise une solution qui est Datadog. Et toute cette partie observabilité qui est conjointement mise en œuvre avec les SRE et les développeurs, encore une fois, hein, qu'on honorise à fond sur ces sujets-là. Avec tout un tas de smoke ping qui viennent tester à un moment donné les différents endpoints. Et quand on dit tester les endpoints, c'est tester la disponibilité de ces endpoints, mais aussi potentiellement la performance associée. Voilà. Donc tu vois, on a plusieurs points de contrôle et cet ownership, il est partagé sur plusieurs acteurs. En tout cas, ce qu'on essaye le plus possible, c'est que ça ne soit pas les SRE qui portent l'entièreté de cette responsabilité, mais de plus en plus que le développeur qui a commit soit responsable le plus possible de bout en bout sur toute la chaîne jusqu'à la production. Parce que finalement, c'est ça qui compte. C'est quand ce code arrive en production et qu'il commence à être utilisé par nos utilisateurs.
Encore une réponse très complète. Du coup, j'enchaîne avec le point que tu as mentionné. Je vois qu'aujourd'hui, chez Usain, vous êtes bien en place sur beaucoup de sujets. Qu'est-ce qu'un développeur peut espérer en rejoignant Usain sur 2022 ?
Déjà, il rejoint une belle scale-up, puisqu'aujourd'hui, Usain souhaite devenir le leader de la signature européenne. Donc, il rejoint un sujet qui est celui de la signature électronique et de faciliter la vie des entreprises pour un acte qui paraît commun, mais qui est un acte de signer aujourd'hui qui est imbriqué et embarqué dans énormément de process métiers. Donc déjà il y a cet aspect qui est qu'aujourd'hui on est sur un produit et sur une boîte vraiment autour d'un produit SaaS. Donc les développeurs qui auraient cette appétence produit et cette envie d'aller faire du produit, ben c'est clairement un bon écosystème pour le faire. Il y a l'aspect scale qui est un facteur, je dirais, challengeant dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que le scale est un facteur qui met en tension les équipes, mais à côté de ça qui apporte un côté extrêmement enrichissant puisque l'organisation évolue très très vite. Les process aussi, on essaie de prendre des décisions de façon aussi rapide, hein, d'avoir des chemins de décision les plus courts possibles pour avancer. Donc c'est une équipe qui, enfin voilà, c'est une lié à ce contexte de scale, bah forcément il y a des contextes d'évolution d'architecture, de comme je disais tout à l'heure, du keep it simple, de comment on s'assure que notre produit est capable de scaler d'un point de vue vraiment technique, hein, en gros comment on arrive à passer de X millions de requêtes à X millions de requêtes d'ici plusieurs mois. Donc clairement on s'ennuie pas chez Usain. Donc ça voilà, ça c'est pour le contexte un peu de boîte. Ensuite le développeur rejoint d'une certaine façon, des équipes, comme je disais, engineering and product. Aujourd'hui, on a cette ambition de rapprocher vraiment les deux et que nos développeurs soient vraiment dans un contexte embarqués dans un contexte produit, bien sûr, avec toujours des spécificités à leur métier d'eng, hein, avec des sujets qui sont très eng. Hein. On parlait tout à l'heure de la squad engine, je parlais à l'instant de la scalabilité, du besoin en performance, etc., etc. Mais pour autant, on souhaite que le développeur ne fasse pas que du code. On souhaite que nos développeurs puissent participer à la conception, potentiellement aller faire du discovery avec les product managers. Je sais que c'est quelque chose que Christopher Parola, qui est notre nouveau VP product, va pousser dans les semaines qui viennent. Donc le développeur a vraiment un impact sur toute la chaîne de valeur, jusqu'à la production. Donc l'idée, c'est pas faire que du code, c'est toucher à tout, à faire de la conception, faire du travail avec les SRE, et vraiment avoir ce côté complet. Donc forcément, ça demande des skills, des skills supplémentaires, ça demande d'être prêt à s'ouvrir à des nouveaux concepts, à s'ouvrir à des nouvelles parties du métier de développeur. Moi, je trouve ça super intéressant. Et c'est aussi pour ça que voilà, on recrute, on est assez forcément sélectif dans notre recrutement et on challenge bien toute cette partie-là pour s'assurer d'avoir des développeurs qui fitent, hein, bien sûr, avec la scalabilité de la boîte, mais aussi avec le fait que on cherche des développeurs qui soient pas juste ancrés à faire du code, en tout cas à l'état actuel de YouSign, où on construit et on est en train de faire grandir les choses. Quand on sera 200, 300, peut-être que je te redirai des choses différentes, mais en tout cas, à date, c'est ce qu'on cherche.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le process de recrutement lorsqu'un développeur entre en contact avec YouSign et démarre un process? Quelles sont les différentes étapes?
Alors, le process de recrutement, il vient d'être changé, j'irais même jusqu'au mot optimisé, des deux côtés, récemment. Donc un développeur, aujourd'hui le process de recrutement, je vais te parler du process de recrutement le plus classique possible. Enfin, en tout cas, on va prendre le chemin standard. Aujourd'hui, la première étape, c'est rencontrer Notam. Donc aujourd'hui, c'est soit Pierre, soit Florian sur cette première étape pour déjà avoir une première discussion. Ce que j'aime bien sur cette étape, c'est qu'on comprenne un petit peu qui est le candidat qu'on a en face, son expérience. Voilà, c'est hard skills, c'est soft skills, et puis commencer déjà à, enfin moi c'est ce qu'on demande côté TAM, c'est à commencer à déceler un premier fit, s'il y a un fit potentiel par rapport à ce que les TAM connaissent de notre écosystème vis-à-vis de ce qui décèle chez le candidat. Donc voilà, c'est rencontre avec un TAM. Si cette étape se passe bien et que le fit est là, la deuxième étape chez nous aujourd'hui, c'est de passer par un coding game. Ce coding game, c'est on l'a voulu assez court. L'idée, c'est à cette étape, en self-serve, hein, donc de façon autonome, que le candidat puisse entre une heure et une heure et demie, qu'on puisse valider vraiment la partie technique du candidat. Voilà. L'idée, c'est à cette étape, d'une certaine façon, d'avoir une première maille de filet pour potentiellement dropper des candidats qui n'auraient pas la base technique pour nous qui est essentielle, et ne pas faire perdre du temps et aux candidats et à nos équipes, hein, parce que le processus de recrutement est quand même coûteux en termes de temps et d'énergie des deux côtés. Donc voilà, cette étape de coding game est là pour ça. Pour faire un premier filtre qui nous permet en fait d'affiner un petit peu le nombre de candidats qu'on va avoir sur la prochaine étape. Sorti de ce coding game, on arrive sur la troisième étape qui est là la rencontre d'un développeur. Alors en fonction de front-back, un développeur back et un engineering manager. Ça dure à peu près une heure et demie. C'est globalement divisé en deux parties. La première partie, on va travailler sur une activité de code review, voilà, de peer review. On va se mettre dans situation avec le candidat. L'idée, c'est d'être un peu icebreaker, hein, c'est de détendre le candidat sur le fait qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Ce qu'on va chercher à déceler, c'est vraiment de se mettre en condition, prendre un code aujourd'hui que les équipes ont produit, et voir comment le candidat avance sur ce code, les remarques qu'il nous fait sur le code, sur le découpage, sur la doc, sur tout un tas de points, pour voir en condition réelle finalement comment le candidat avance, quel est son mindset, déceler des habitudes de travail. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur un format très ouvert, puisque notre ancien format comportait un test homework, hein, qui prenait quand même beaucoup de temps côté candidat, et c'est ça qu'on a voulu tacler sur ce nouveau process, ramener un peu plus de dynamisme, d'humain, et de live sur cet échange de une heure et demie. Et sur la deuxième partie, on va avoir un Q&A, hein, plutôt classique, sur lequel on va faire un échange encore une fois ouverte où on va poser des questions aux candidats côté EM et côté engineering manager, pardon, et côté développeur, mais aussi parce que nous, on aime bien les gens curieux, répondre aux questions du candidat sur, généralement, notre organisation, la qualité, enfin, voilà, toutes les questions qui tournent autour de celles que tu viens de me poser. Et la dernière étape, c'est généralement moi, qui vient donner finalement qui vient terminer ce processus. Et moi, à cette étape, ce que je ne revalide pas finalement la partie technique hein, qui a été validée par les équipes, mais je viens surtout rechallenger les points qui auraient pu être pas assez creusés ou les points qui auraient pu être remontés au fil des différentes étapes. Et moi, ce que je viens surtout chercher à cette étape, c'est ce que le candidat souhaite faire. Bien s'assurer que le fit est présent et comprendre ce que le candidat veut devenir à 1 an, 3 ans. Voilà, donc c'est un entretien beaucoup moins technique. Voilà aujourd'hui notre nouveau process de recrutement sur lequel on a eu des très bons feedbacks des deux côtés, des équipes et aussi des candidats. Alors je sais qu'il n'y a pas de processus parfait, il y a beaucoup de débats autour des processus, est-ce qu'on doit faire un coding game, est-ce qu'on doit pas faire de coding game, est-ce qu'on doit faire du test homework, etc. Bon, je pense que notre démarche a été de trouver le meilleur équilibre possible pour nos équipes, pour in fine bien tester le candidat. Nous on croit au fait que ces quelques étapes sont essentielles pour le candidat comme pour nous, pour s'assurer que le fit est là et puis qu'on va pouvoir bosser ensemble. Et aussi essayer de minimiser ce temps et ces étapes. Et ce qu'on tient beaucoup aussi chez YouSign, c'est avoir un process le plus court possible. Voilà. On essaye d'enchaîner les étapes le plus rapidement possible, de ne pas laisser de vide pour avancer très vite, parce que souvent quand on se dit que c'est le bon candidat, on a horreur c'est de voir des candidats partir parce que notre process a été freiné, parce qu'on a soit pas trouvé de place dans les agendas, soit pas été assez pushy. Voilà, donc ça c'est souvent la déception. Donc on essaie d'être assez pushy sur les délais. Ça nous est arrivé des fois de faire des propositions dans des délais vraiment très très courts et que l'onboarding puisse s'enchaîner le mois d'après. Voilà, on a un onboarding nous toutes les semaines.
D'accord, donc un candidat peut démarrer chaque semaine.
Alors un candidat, on l'a en temps réel, enfin tout le mois. Par contre, l'arrivée et l'onboarding des nouvelles personnes chez YouSign se fait sur la base de promos, et ces promos sont chaque mois. Voilà, chaque début de mois, on accueille tous les nouveaux collaborateurs de YouSign, qu'ils soient tech ou non tech. Hein. Aujourd'hui, c'est un onboarding qui est un onboarding d'entreprise et qui est un onboarding commun. La première semaine et les trois autres semaines qui suivent dans le premier mois d'onboarding, les trois autres semaines sont un onboarding plus métier. Dans la squad ou la team côté tech dans lequel le nouveau collaborateur arrive. Voilà.
Ok. Et du coup, pour 2022, quels sont les postes que tu cherches à pourvoir? Combien tu vas en avoir? Qui est-ce qui doit s'adresser à toi?
Alors, clairement, on cherche beaucoup de profils. Donc, je ne vais pas tous les citer parce que je vais faire une liste à la Prévert, mais du classique. Hein, voilà, on est toujours en recherche de DevFront, de JS, React. Alors, j'insiste pas trop sur le React parce que on n'est pas du tout fermé au fait que la personne n'ait pas utilisé le framework, tel ou tel framework. Clairement, on n'est pas arc-bouté là-dessus. Nous, on aime bien. On aime bien se dire que quelqu'un qui a fait du JS très longtemps soit capable de monter très vite en compétence sur du React, donc c'est pas forcément un sujet. Donc je vais rester sur la terminologie front, donc développeur front, back, SRE, de la data, security eng, enfin voilà, on cherche une multitude de profils, et ça je vous laisse aller voir notre page job qui a été refait, je suis mal placé pour le dire, mais qui est bien faite. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est les équipes TAM et design. Mais voilà, on cherche tout un tas de profils. L'idée quand même, et juste pour avoir une vue un peu chiffrée, c'est globalement de doubler la taille de l'équipe INP, hein, donc, et pas que côté engineering, hein, mais aussi côté product et design, parce que ça, c'est des composantes extrêmement importantes aujourd'hui dans notre organisation. Donc en tout cas, au sens INP large, on devrait normalement doubler les équipes d'ici l'année prochaine. Donc on est entre 40 et 50 recrutements sur l'année 2022, donc c'est extrêmement challengeant. Mais voilà, avec tout profil confondu.
Une autre source, si jamais vous voulez en savoir plus sur YouSign, c'est le blog tech. Je le lis et je trouve qu'il y a des très bons articles qui peuvent en sortir. Du coup, je vous invite aussi à aller regarder là, par là.
Merci Ryan. Effectivement, c'est le blog par ceux qui le construisent, enfin qui construisent YouSign. Donc, c'est rédigé par les équipes. Et d'ailleurs, mais je passe un petit merci à eux pour le temps qu'ils passent et la qualité des articles qu'ils produisent.
Merci beaucoup Kevin. On arrive à la fin de cette interview. Où est-ce que l'audience pourrait te retrouver s'ils ont des questions à te poser ou s'ils souhaitent entrer en contact avec toi pour un recrutement ou pour un autre sujet?
Alors, ils pourront me trouver effectivement sur LinkedIn de façon très classique. Sinon, voilà, ils peuvent me contacter par mail à kevin.dubourg@usign.com et je me ferai un plaisir de leur répondre ou évidemment de les rerouter en fonction des sujets et des questions qui seront posées. Voilà. En tout cas, merci Rayette pour cette interview. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi.
Merci à tous pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.